Allô Bouvard sur RTL, ça commence maintenant jusqu'à midi et demi. Et pour poser votre question à Philippe Bouvard, un seul numéro 3210. Bonjour Philippe.
Bonjour Virginie, bonjour vous tous. Bonjour les amis du Studio 4. Bonjour les amis lointains.
Et pour commencer l'émission Philippe, on accueille exceptionnellement un auteur.
Ah oui, je crois deviner de qui il s'agit. Parce que bon, d'habitude, la priorité absolue, c'est à nos correspondants qui veulent poser une question d'intérêt général. Là, c'est d'intérêt général et c'est traité par quelqu'un qui connaît bien une question complexe. Vous avez entendu parler ces jours-ci de ce que le canard enchaîné avait provoqué comme onde de choc dans le monde politique. Eh bien, il se trouve, mais c'était une coïncidence, que voilà quelques jours, un ancien rédacteur en chef du Canard enchaîné a sorti un livre où il raconte toutes les affaires et la façon dont le Canard a été souvent aux premières loges dans les scandales politiques.
Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL.
Bonjour Claude Angéli.
Bonjour Philippe Bouvard.
Ah, dites donc, vous êtes un auteur heureux, hein ? Vous sortez un très bon livre, dont naturellement on va parler, et vous vous offrez pour le lancer les services d'une attachée de presse qui s'appelle, je crois, Pénélope Fillon, hein ?
Il y a une petite erreur, mais je veux bien l'admettre.
Non, en tout cas, c'est très réussi, et le bouquin également, sauf que le titre mérite une explication. Le titre, c'est « Les plaisirs du journalisme ». Passe pour les plaisirs que nous éprouvons, vous et moi, à exercer librement un métier pour lequel on a une vraie vocation, hein ?
Oui.
Passe pour le plaisir qu'on donne à nos lecteurs.
Si possible.
Mais je pense que le mot de plaisir est impropre lorsqu'il s'agit des notables que vous accommodez à la sauce du canard enchaîné.
Oui, c'est un fait. Mais je dis bien aussi dans ce livre que ces plaisirs sont limités. Sont limités parce que la société n'est pas prête, la magistrature n'est pas prête, la Constitution les protège. Et que finalement, nous avons les intouchables de la République, les intouchables.
Attendez, Claude Angéli. Mercredi, le canard sort à l'heure habituelle. Alors, vous me direz que dans les ministères, on l'a la veille au soir. Quelques heures plus tard, à peine, la justice ouvre déjà une enquête. Ça ne mérite pas que vous disiez qu'elle est insensible à tout ce que vous écrivez.
Non, elle est peut-être sensible à ce propos, mais j'attends pour voir.
Vous intervenez dans toutes ces affaires et vous les citez dans le livre et ce sont autant de bons souvenirs pour les lecteurs et de moins bons souvenirs pour tous ceux qu'on a pris la main dans le sac. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire votre métier ? Est-ce qu'il faut avoir une âme de justicier, une âme de policier, une âme de moraliste ?
Non, il faut être curieux. Il faut avoir utilisé ce qui est possible dans notre pays, c'est la possibilité d'enquêter, la possibilité de publier, l'indépendance. Et puis après, c'est finalement les gens qui réagissent. Soit ils réagissent en citoyens, soit ils réagissent en militants, soit ils réagissent en électeurs, soit ils ne réagissent pas.
Aujourd'hui, je crois que nos présidents ne portent plus plainte quand on les malmène.
Non, c'est vrai, mais aussi, ils sont complètement intouchables. Je veux dire, dans le livre, il y a tous les exemples de Pompidou, de Mitterrand, de Giscard, de Sarkozy, qui auraient dû, au moins, disons, être interrogés comme témoins dans certaines affaires,
d'enquête. Mitterrand a été plutôt bon prince, hein ?
Oui.
Giscard un petit peu moins, ils baissent les bras parce qu'il leur faudrait un cabinet d'avocats en permanence. Hein.
Mais ils ont les avocats, mais regardez Mitterrand par exemple, avec l'attentat contre le bateau du Rainbow Warrior. À la suite de cela, il n'y a pas eu la moindre commission d'enquête. La droite comme la gauche n'a pas voulu d'une commission d'enquête sur cette stupide affaire qui avait quand même amené la mort d'un photographe portugais. Et on ne voulait pas fâcher l'état-major des armées. Tous les généraux ou les amiraux qui avaient poussé Hernu et Mitterrand à faire cette opération.
Vous avez publié la feuille d'impôt de Jacques Chaban-Delmas.
Oui.
Et sans doute, il a raté à cause de cette publication l'Élysée. Hein.
Bah, c'est pas, c'est surtout Giscard qui a pris sa place. Quoi.
Oui. Ah ben, Giscard, il a perdu le combat à cause des diamants de Bokassa. Alors, il n'y avait pas que le canard, il y avait le luron, vous vous souvenez?
Oui, oui.
Le luron qui oui. se baladait avec un labrador auquel il avait fixé un collier de diamants, et naturellement de diamants industriels, parce que je crois que ça n'a jamais été autre chose. Hein.
Oui, oui. Mais Giscard, c'est aussi sa politique qui lui a fait perdre l'élection. C'est pas simplement... Les diamants, c'est la surface des choses, c'est l'écume des choses.
Je crois qu'il a été battu en 81 parce qu'il avait donné le droit de vote à des jeunes qui n'ont pas voté pour lui.
Oui, et puis aussi parce qu'il a quand même... Ça, il n'a pas simplement reçu des diamants de Bokassa, il n'a pas seulement voulu accepter qu'il se sacre empereur et il n'a pas payé le sacre. Il a payé le sacre en plus. Il a fabriqué, il a monté un coup d'État et il a envoyé les services du SDEC. À l'époque, c'était le service secret extérieur, que maintenant on appelle la DGSE. Il les a envoyés là-bas pour piquer toutes les archives du pays parce qu'il y avait sans doute des documents compromettants à l'intérieur. Voilà. Et bien ça, c'est beaucoup plus grave. L'utilisation d'un service de l'État pour protéger sa réputation, c'est beaucoup plus grave que de recevoir des diamants.
Aujourd'hui, Philippe Bouvard, vous êtes avec le journaliste Claude Angéli, l'invité d'Allo Bouvard, pour son livre « Les plaisirs du journalisme ». Et la suite de votre entretien, c'est dans un instant sur RTL. Allo Bouvard sur RTL, et Philippe Bouvard, ce matin, vous êtes en compagnie du journaliste Claude Angéli pour parler de son livre « Les plaisirs du journalisme ».
Quels sont vos informateurs ?
Il y a un chapitre dans le livre qui cite des informateurs, sans donner leur nom naturellement, et qui explique qu'ils sont extrêmement variés, que ce sont... soit des policiers, soit des magistrats, soit des diplomates, soit des militaires, ou soit des membres des services de renseignement. La plupart de toutes les affaires que je connais, que j'ai connues, c'était des gens qui en avaient assez, disons, de cacher des choses, ou qui trouvaient plus civique d'informer un journal qui allait publier ces informations, et qui n'était pas forcément en accord avec ce que le canard est, mais qui estimaient qu'il était nécessaire d'informer l'opinion. Par exemple, les militaires qui nous ont informés depuis l'Afghanistan sur le mauvais équipement des Français qui combattaient là-bas, ce qui a permis de faire un article sur la paupérisation du contingent français, et ce qui malheureusement a été confirmé un mois et deux jours plus tard par cette embuscade où on a eu 10 morts.
Ça, c'est dans le genre tragique, mais il y a beaucoup de choses comiques dans le livre. Et ça nous rappelle d'ailleurs de bons souvenirs, parce que je me souviens, celui qui dirigeait le canard il y a quelques années, je crois que c'était Robert Trenault. Hein.
Ah, Robert Trenault, oui. Puis après,
il avait été provoqué en duel, vous vous souvenez ?
On le raconte, c'était très drôle, par le colonel Trinquier.
Et il avait dit qu'il se battrait en duel, mais seulement au pistolet à bouchon. Et puis alors, il y a eu l'affaire des plombiers du canard.
Ah.
Est-ce qu'aujourd'hui, un gouvernement oserait encore ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas que... Là, c'était du temps de Pompidou, avec M. Raymond Marcellin. Et on a eu beaucoup de chance. D'abord, la chance que quelqu'un passe... C'était des bureaux en travaux, on venait de les acheter, et voit de la lumière et monte et découvre des gens au travail et fiche le camp à toute allure. Et puis bon, j'ai eu la chance, une semaine plus tard, d'avoir un informateur qui me disait c'est la DST, c'est-à-dire le contre-espionnage, et voici les noms de 6 des gens qui étaient chez vous. Et il était de la DST.
La première photo du château de Bitti, je me souvenais l'avoir vu dans le canard, le château Chirac, quoi.
Le château de Chirac, oui.
Oui,
mais que d'ailleurs, il y allait très peu à la suite.
Très souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit que des carrières brillantes ont tourné court pour des bêtises. Les cigares de Christian Blanc, ça coûtait pas cher à l'État, quand même.
Oui, mais il fallait pas.
Vous pensez que l'argent du ministère de l'économie que M. Macron a dépensé pour financer son mouvement, ça lui sera reproché ?
Je le pense, si tout ça est prouvé. Moi, je ne connais pas bien l'affaire, j'ai lu, mais simplement, je ne connais pas l'affaire. Mais si c'est vrai, ça mérite d'être sanctionné. dans l'opinion. Après, on verra. Moi, nous,
les chaussures d'Aquilino Morel, c'était bénin, c'était véniel.
Ben, c'est pas moi qui l'ai sorti dans le canard. Et c'est pas moi qui l'ai viré de l'Elysée, c'est Hollande.
L'appartement de 600 mètres carrés d'Hervé Guémard. C'est vrai que c'était aux frais de l'État. C'est vrai que c'était énorme, mais il avait, je crois, une douzaine d'enfants.
Non, il en avait 6 ou 8, je ne sais plus. Mais il avait, en tant que ministre de l'économie, il avait 2 appartements au ministère de l'économie et des finances. Seulement, madame voulait que tout soit groupé, et voilà. Alors donc, l'État lui a loué cet appartement et il a dû démissionner après la parution de l'article dans le canard.
Est-ce que vous êtes un peu triste quand quelqu'un qui est brillant mais qui n'a pas été très honnête ou qui n'a pas réfléchi suffisamment voit sa carrière politique interrompue?
Non, je veux dire, les hommes d'État, ils font, si on fait de la politique à un moment donné, il faut quand même avoir les mains propres, voilà.
J'ai connu un grand journaliste du Figaro, sans doute le meilleur à l'époque, qui faisait partie de votre équipe, et que vous avez licencié parce qu'il avait été décoré à titre militaire. C'était Pierre Cize.
Je crois que c'est avant-guerre. Il devait être décoré de la Légion d'honneur. Et je crois que c'est à l'époque des Maurice Maréchal, je crois. Ils lui ont dit, tu vas partir. Et Cize a dit, mais je n'ai pas demandé la Légion d'honneur. Oui.
Et on lui a dit, il ne fallait pas la mériter.
Il ne fallait pas la mériter.
Oui. Dernière question, Claude Angéli. Si vos différentes campagnes portaient leurs fruits et que la politique française soit un jour complètement pure, morale et transparente, est-ce que vous ne seriez pas en faillite?
Je crois que vous décrivez une possibilité que ni vous ni moi ne verrons jamais.
Voilà, en tout cas, merci d'avoir publié Les plaisirs du journalisme. Ce sont des plaisirs qu'on n'a pas besoin d'écrire soi-même pour partager, mais quand on le fait, on passe un bon moment tous les mercredis matins. Merci et bravo, Claude Angéli.
Merci, Philippe Bouvard. Au revoir.
RTL, allô, Bouvard?
Le coup de fil de ce samedi, je vais le passer à un ecclésiastique atypique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la quête pour ses œuvres, chaque fois qu'il a besoin d'argent, il lance un appel sur Twitter, il demande qu'on lui assigne un défi, et puis ensuite, il le relève et il compte la recette. Bonjour Père Guillaume Souris Lavergne.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors, j'ai admiré que vous preniez des risques physiques, parfois dangereux, hein?
Ah ben, il faut mouiller le maillot hein, pour le royaume.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes jeté dans un gouffre déjà.
Alors, pas mal de choses grâce à une aventure extraordinaire dans un tout petit village du Lot, à Marcillac-sur-Célé, où il y a une magnifique abbaye, mais qui est très peu connue et qu'on a besoin de restaurer parce que c'est un patrimoine fantastique. Et ça m'a amené effectivement à accomplir des défis qu'on m'a lancés sur Internet et que j'ai relevés afin de relever aussi l'abbaye.
Ensuite, vous sautez en parachute.
Voilà, alors au titre de ces défis qui m'ont été lancés, le premier qui a été vraiment un défi immense pour moi, ça a été effectivement une proposition des paras de l'aéroclub de l'Albinque qui m'ont proposé de concourir à cette recherche de fonds pour l'abbaye à condition que je manifeste les mêmes qualités que les paras. Alors l'engagement, vaincre sa peur, etc. Et donc ils m'ont, de manière tout à fait simple mais compliquée pour moi, lancer le défi de sauter à 4000 mètres dans le vide, et puis ensuite, évidemment, après une chute.
Alors, c'est un contrat qui n'a rien de juridique. D'un côté, quelqu'un qui a besoin d'argent, mais pour des œuvres comme vous, et de l'autre, des internautes qui promettent de lui en donner. Ça fonctionne?
Alors, c'est même plus que des promesses, parce que lorsque les gens donnent, ils donnent cash, quoi. Ben oui, évidemment que ça fonctionne, parce que sinon, je ne continuerai pas dans cette voie-là pour réaliser la
restauration. Est-ce que vous demandez une autorisation de votre évêque?
Ah oui, alors évidemment, hein, quand on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, évidemment, l'évêque est au courant. Ouais.
Et est-ce que vous avez une assurance spéciale, par exemple, pour escalader la falaise qui figure à votre prochain programme?
Eh bien, écoutez, depuis 37 ans que je vis, je pense bien que j'ai deux anges gardiens. Au lieu d'en avoir un seul, je crois que j'en ai deux. C'est ma meilleure assurance vie.
Eh bien, écoutez, bravo. Puis bon, quand on ne quitte pas le plancher des vaches, même si on ne croit pas en Dieu tous les jours, on ne peut que vous saluer.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis moi, je prie pour ceux qui ne prient pas.
Merci, Père Guillaume Souris Lavergne. Merci beaucoup.
Avec joie.
Et voici un nouvel appel dans Allo Bouvard sur RTL. On accueille Sylvie de Charolles en Saône-et-Loire. Et Sylvie recherche un emploi, Philippe.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Monsieur Bouvard.
Oh non, dites, on va pas m'appeler Monsieur Bouvard. Hein. Si vous me voyez au studio, là, j'ai dénoué ma cravate pour faire plus jeune, donc vous m'appelez Philippe. Hein.
D'accord, très bien Philippe.
Bon, de quoi on parle?
Mais écoutez, moi je voudrais vous poser une question. Notre grand-mère est-elle en train de mourir?
Ah, si on se réfère à Madame Belkacem, la bien-nommée, parce qu'elle est jolie, l'agitée de la réforme. Hein. Eh bien oui, elle est en train de mourir à coup de simplifications qui d'ailleurs ne sont pas si simples que ça.
Non,
alors on a déjà simplifié l'orthographe, on a simplifié 2400 mots qu'il faut apprendre, puisqu'ils ne s'orthographient plus de la même façon que par le passé. On a enlevé l'accent circonflexe, on a enlevé les traits d'union. Il y a peut-être quelque chose qui m'aurait servi quand j'étais enfant, c'est que le participe passé peut être considéré comme invariable. Et vous savez que le tracas, les soucis que nous donnaient les accords de participe passé.
D'où la nécessité d'apprendre les règles de grammaire.
Oui, mais alors, la grammaire, c'est en quelque sorte l'architecture de la phrase. Et la phrase, c'est le français, c'est notre langue maternelle.
Tout à fait.
Donc, on est en train de détruire notre langue maternelle.
Exactement, exactement.
Alors, on la détruit en plus avec un mot qui a une résonance religieuse, alors qu'on est dans un État qui ne cesse de protester de sa laïcité. C'est le mot prédicat dont personne n'avait jamais entendu parler, y compris mon vieux copain Bernard Pivot et y compris votre serviteur. On n'a jamais entendu parler de ça. On a entendu parler de prédicateur, même si on n'allait pas dans les églises, mais le prédicat, jamais. Or, le prédicat, ça consiste à annuler complètement les compléments, c'est-à-dire à faire... Il y avait dans la phrase, il y avait trois éléments. Il y avait le sujet, le verbe et le complément.
Oui.
Et je dirais, dans les émissions de télé qui étaient très agréables pour ceux qu'on invitait, qui étaient aimables, il y avait le sujet, le verbe et le complément.
Oui.
Eh bien, aujourd'hui, il y a le sujet et le verbe et le complément, ça ne fait plus qu'un.
Tout à fait.
C'est complètement idiot parce que le fait de bien conjuguer un verbe impliquait qu'on se renseignait pour savoir si c'était un verbe transitif ou pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'acception transitive, c'était un verbe qui admet un complément d'objet direct ou pas. Aujourd'hui, cette notion a totalement disparu. Les compléments d'objets indirects aussi, les compléments circonstanciés, c'est-à-dire qu'on va parler n'importe comment.
Tout à fait. Et en fait, ça en revient à dire qu'on prend nos enfants pour des idiots, incapables d'apprendre ce que nous, on a pu apprendre quand on était gamin, quoi.
Est-ce que vous avez connu, dans votre adolescence, ce qu'on appelait l'analyse logique?
Oui, tout à fait.
Vous vous souvenez, on prenait une phrase, ça pouvait être une phrase d'un grand auteur, mais une phrase de la vie quotidienne.
Et on la découpait.
Voilà, on assignait à chaque mot son rôle et on définissait les mots par rapport aux relations qu'ils avaient avec d'autres mots.
Tout
parce que quand on... Vous avez fait un peu de latin, non?
Oui, oui.
quand il y avait du latin, il y avait des cas qui correspondaient au rôle du mot. Mais en français, il n'y a pas de cas, heureusement, parce que c'était aussi très compliqué. Et donc, c'était très bon que, pendant l'analyse logique, on vous explique à quoi servait le sujet et naturellement, outre sa place dans la phrase, les correspondances qu'il pouvait y avoir avec les autres termes. Eh bien, c'est fini, ça, c'est fini.
Mais oui, mais ce qui va finir par rendre les phrases complètement incompréhensibles, parce qu'on va tout utiliser dans un sens ou dans un autre de la même façon, quoi. C'est un peu aberrant.
Ah, ça, c'est vrai. Et alors, je ne vous parle pas de l'orthographe, parce que c'est encore un autre débat, mais le fait de ne pas savoir à quoi un mot se rapporte n'aidera pas à le mettre, s'il le faut, au pluriel ou au singulier.
Eh bien, c'est un nivellement par le bas, en fait. C'est dans la continuité de ce qui se fait depuis plusieurs années, et c'est assez dramatique pour notre langue.
Sylvie et Philippe, Allo Bouvard sur RTL revient dans quelques secondes, le temps d'une pause. On parle de la grammaire française qui est malmenée ce matin sur RTL, un sujet évoqué par une auditrice de Saône-et-Loire, Sylvie.
Est-ce que vous savez comment réagissent les enfants ?
Moi, pour l'instant, j'ai une fille qui est maman, donc elle ne va plus à l'école. Mes petits-fils sont trop jeunes pour pouvoir encore apprendre ça.
Est-ce qu'il ne faut pas les orienter davantage vers les textes classiques que la BD ?
Mais c'est évident, il faut arrêter d'étudier les textes de rap, il faut revenir au bon vieux Lagarde et Michard, il faut revenir à tout ça, c'est indispensable.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est, comme vous, parents avisés, devant une université toute puissante et qui fait n'importe quoi ?
Ça va peut-être pas plaire ce que je dis. Moi, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le privé ou là où on pourra peut-être trouver des professeurs qui suivront nos concepts, quoi. Ou alors l'éducation à la maison, si vraiment c'est nécessaire.
Oui. Mais enfin, bon, se tourner vers le privé, même si c'est l'argent du public qui est toujours présent, c'est quand même un aveu d'impuissance. Hein.
Mais tout à fait, tout à fait.
Il y a la lecture dans la mesure où elle subsiste. Peut-être que si on fait lire aux jeunes des gens qui, en d'autres temps, écrivaient correctement le français, ils prendront aussi le goût de cette...
Ce serait bien. Le problème, c'est que ce n'est plus ce qu'on leur donne à lire à l'école, quoi.
Oui. Vous savez ce qu'on leur donne à lire ?
Pas vraiment, des textes de rap, des histoires, c'est un peu spécial, quoi. C'est plus du tout, on a perdu tous nos fondamentaux, donc ça va avec, quoi.
Écoutez, moi j'ai été élevé avec Madame Bovary.
Oui, moi aussi.
Bon, c'est une belle femme, un peu tristounette quand même.
Oui, hein. D'accord, mais bon.
Et aujourd'hui, je constate que mes petits-fils, ils savent même pas ce que c'est. Or, le bovarisme, ça existe de plus en plus parce qu'il y a des provinciales qui s'ennuient. Donc, c'est tout un pan de notre culture. Et celui qui m'est le plus cher personnellement, c'est-à-dire la littérature française du 19e siècle, qui est pas en train de s'écrouler, qui a disparu. C'est fini.
C'est fini.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Résistance.
Oui, voilà. On ne parle... Il y a quand même des journaux qui sont encore écrits en français, mais peut-être un peu moins, hein ? Oui.
Ce qui serait bien aussi, c'est que je ne m'adresse pas à vous à ce niveau-là, que certains journalistes aussi parlent correctement le français. Ce serait pas mal, déjà.
Ah oui. Mais alors, on se dit que si on parle correctement, on sera moins compris par des gens qui sont de plus en plus nombreux à parler incorrectement. C'est un cercle vicieux. Mais au moins, nous sommes deux à l'avoir identifié et à ne pas être d'accord sur la mort de la grammaire. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.
Jusqu'à 12h30, Allo Bouvard sur RTL.
Voici des petites nouvelles dont le sérieux n'est pas la qualité dominante. Charlie Hebdo détaille les qualités des prostituées russes déclarées les meilleures du monde par Vladimir Poutine. Élevées en batterie à Courchevel, capables de fonctionner par moins 50 degrés, et ayant sur chaque sein une caméra reliée directement au KGB. Un gratte-papier du Parti socialiste a cru devoir faire disparaître des résultats de la primaire les communes d'un département qu'il croyait naïvement avoir été supprimé en raison de son nom. Pas-de-Calais. Hollande a suivi les débats de la primaire de la gauche dans une cabane que les Chiliens lui avaient aménagée en plein désert. Et à son retour à l'Élysée, il n'y avait pas plus de monde. Le musée Grévin, qui avait commandé un peu précipitamment une statue d'Hillary Clinton, a dû la reconvertir d'urgence en effigie de Donald Trump. Mais en y ajoutant 50 kilos de triste cire.
Vos questions au 3210 à Philippe Bouvard dans Allo Bouvard sur RTL. Et c'est jusqu'à midi et demi. Jusqu'à midi et demi sur RTL, Allo Bouvard et toutes vos questions à Philippe Bouvard au 3210. Et voici justement celle de Denis qui est maître d'hôtel à Thouars dans les Deux-Sèvres, Philippe.
Bonjour Denis.
Bonjour Philippe Bouvard. La question que je voulais vous poser, peut-on éviter la solitude?
Ah, est-ce que vous en souffrez?
Moi, personnellement, non, parce que j'ai la chance d'avoir 6 enfants, donc des enfants oui. Très proches de nous.
Si vous avez 6 enfants, ça signifie que vous allez avoir une vingtaine de petits-enfants. Vous n'êtes pas prêt de vous retrouver tout seul. Sauf que, avec l'âge, et quand on n'a pas suffisamment procréé ou pas du tout, on perd beaucoup plus souvent des anciens copains qu'on ne se fait des nouveaux amis. Hein.
C'est le problème de génération, ça, de toute façon, Philippe. Hein.
Ça,
c'est générationnel.
Oui. Mais alors attendez, aujourd'hui où on vit plus longtemps, ça risque de se poser davantage. Parce qu'avant, comme on disparaissait beaucoup plus tôt, on n'avait pas à se poser autant de questions. Mais aujourd'hui, dans la dernière partie de la vie où on est très disponible pour les autres, les autres, ils ne sont pas toujours là. Voilà. La définition du solitaire, parce que c'est quand même une espèce d'archétype social dont on se préoccupe, certaines fondations et parfois les pouvoirs publics, c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'a plus de relations sociales, de relations familiales, de relations amicales et surtout même de relations de voisinage. Donc, c'est quelqu'un qui se retrouve tout seul. Il y a les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que vous, par exemple, dans les moments où les enfants sont à l'école ou en vacances, vous portez sur ces réseaux sociaux?
Moi, je ne suis pas du tout un fan. Moi, je n'ai pas de profil Facebook. Je ne suis pas du tout porté sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt engagé sur l'associatif, vous savez. La vraie solution pour éviter la solitude, c'est-à-dire le don de soi, l'altruisme, je pense que c'est une des solutions pour éviter la solitude. C'est de s'engager vis-à-vis des autres, l'engagement. Ne pas attendre uniquement des autres s'engager. Je pense que c'est vraiment une des clés du problème de la solitude. Bon, et puis il y a aussi les autres problèmes qui sont économiques, sociétaux, sociaux qui font que c'est un vrai problème multiforme.
Il y a le côté, que je dirais, caractériel de la vie. On divorce, on se fâche, on devient plus exigeant et parfois on devient sauvage même. Hein.
Ce sont toujours des conséquences des raisons que je viens d'évoquer, des accidents de la vie qui vous font devenir un peu acariâtre.
Enfin, vous connaissez la devise de ces gens qui finissent par se retrouver seuls et qui parfois le déplorent, mais c'est trop tard. Plutôt être seul que mal accompagné.
Mais
est-ce qu'il ne faut pas faire dans la vie certains choix en se disant que si on ne veut pas rester un jour tout seul, il faut être moins exigeant sur l'intellect, la culture et le caractère de ses amis. Voilà. Aujourd'hui, un Français sur 8 est seul. Et 25% des plus de 75 ans le sont. Donc, vous voyez, c'est un véritable phénomène social. Hein, et c'est les statistiques de la Fondation de France qui disent d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, 5 millions de Français qui sont tout seuls et c'est 1 million de plus qu'il y a 5 ans. Donc c'est un phénomène qui s'aggrave. Alors peut-être qu'il s'aggrave mécaniquement, arithmétiquement, parce qu'on est plus aujourd'hui qu'on était il y a 5 ans. Hein,
oui, ça, c'est une des raisons.
Et puis parce qu'on vit plus longtemps.
Mais vous savez, moi je pense qu'il y a un problème, c'est que c'est l'éclatement des valeurs de nos sociétés. C'est-à-dire que tous nos comportements deviennent de plus en plus individuels. Donc obligatoirement, on retrouve cette solitude à travers ce comportement. Je crois que c'est l'élément principal. C'est que de nous-mêmes, nous nous excluons de tous les systèmes via nos comportements.
Je dirais que ce genre de comportement individualiste, je vous comprends très bien, qui est encouragé par l'âge et par l'expérience et par certaines exigences, il cède lorsqu'on a un ordinateur et qu'on commence à teinter des réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans, ça, les réseaux sociaux.
Est-ce que le fait d'avoir de vrais, de faux amis, mais toujours de façon virtuelle, c'est la solution à la solitude, Philippe ?
Les faux amis, vous avez raison. L'autre jour, j'entendais un politicien, on les entend beaucoup en ce moment, vous savez, et qui disait, moi, sur Facebook, j'ai 175 000 amis. Je ne sais pas s'il aura 175 000 électeurs, mais c'est de la rigolade, ça, hein ?
Oui, et puis c'est pas représenté des vrais problèmes de société. C'est toujours virtuel, c'est toujours court-termiste, alors que la relation, le fait de la solitude, il faut aller vers le long terme, recréer des vraies relations entre les gens.
Denis et Philippe, petite interruption, on vous retrouve dans un instant sur RTL pour la suite d'Allo Bouvard. À tout de suite. Peut-on éviter la solitude ? C'est la question qu'a posée au 3210 Denis, maître d'hôtel à Thouars dans les Deux-Sèvres, à Philippe Bouvard.
Il y a quand même des associations caritatives ou culturelles. Par exemple, le fait d'adhérer à la Croix-Rouge permet de rencontrer d'autres solitaires qui ont envie d'avoir des amis, des relations. Et puis, il y a toutes sortes d'associations culturelles. Si, par exemple, vous vous inscrivez dans une chorale, dans une chorale, on ne chante pas tout seul. Par définition, vous aurez d'autres personnes qui chantent autour de vous. Et puis, vous pouvez vous faire des relations en vacances, même si, au retour, elles ont tendance à s'effilocher un peu. Et puis, vous avez aussi, je pense que ça a sauvé beaucoup de gens de la solitude. Vous avez le bridge, la pétanque et la belote. Alors, ça a l'air comme ça d'une plaisanterie. Pas du tout. Le bridge, il y a toute une société qui s'organise autour du bridge parce que c'est un jeu passionnant où d'ailleurs on s'engueule tout le temps. Souvent, ces bridgeurs sont aussi des golfeurs. Donc, ils se retrouvent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur sur des greens. La pétanque, c'est un jeu d'extérieur. Il est arrivé de passer en plein hiver dans le bois de Boulogne à Paris et de voir à 2h du matin des gens qui jouaient à la pétanque sous des lampadaires. Ils ne sont pas seuls, ceux-là. Hein ? Mais peut-être qu'ils ont du mal à faire accepter ces présences nocturnes aux gens qui les accompagnent dans la vie. Ensuite, il y a la belote. C'est moins huppé que le bridge, moins huppé que le golf. Mais on se fait des amis et généralement, ça a lieu dans un petit bistrot sympa où le patron a à cœur d'offrir sa tournée. Donc, vous voyez, je crois qu'on peut ne pas rester seul. Mais il faut le vouloir.
À vous entendre, Philippe, je considère que l'association, c'est-à-dire le fait d'aller vers les autres et de partager la solution à la solitude.
Oui, non, mais attendez, il faut à la fois penser aux autres et penser à soi. Si, vous pouvez être un caritatif complet partir à l'autre bout du monde chaque fois qu'il y a une catastrophe, vous ne serez pas seul, même si, hélas, vous rencontrez plus de morts que de vivants. Mais dans la vie de tous les jours et dans notre type de société, il faut avoir des contacts affinitaires. C'est le grand mot prononcé. Il faut des affinités. Ces affinités que les écrivains du siècle des Lumières prétendaient électives, il ne faut pas passer à côté des affinités. Et je vous souhaite d'avoir de plus en plus d'enfants et de petits-enfants autour de vous. parce que c'est quand même là, en dépit de ces accidents de la vie que vous évoquiez, c'est quand même le cas de figure où il y a moins de déceptions. Merci Denis.
Merci pour vos conseils Philippe.
Allô Bouvard sur RTL.
Encore des petites nouvelles. 29 ans après que Jacques Chirac a promis de se baigner dans la Seine, la mairie de Paris va publier la liste des 9 sites où il fera bon barboter si l'on est subventionné par le syndicat d'initiative. Robert Ménard, maire de Béziers, élu meilleur menteur de France. Viennent ensuite les membres du gouvernement, accusés par le président de la Cour des comptes d'annoncer contre toute réalité le redressement des comptes publics. Si l'on accepte les urgences qui demeureront gratuites, il en coûtera désormais 6 centimes la minute, attente comprise, pour appeler une police débordée par les querelles de voisinage et par les scènes de ménage. Michel Sapin n'aurait toujours pas remboursé les 15 000 euros d'indemnité qu'au titre de maire puis de premier adjoint, il avait perçu illégalement alors qu'il avait déjà quitté la pension de famille d'Argenton-sur-Creuse pour l'hôtel des ministres à Bercy.
Dans Allo Bouvard sur RTL, vous pouvez poser toutes vos questions à Philippe en appelant le 3210. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Patrice, qui est technicien moteur à Châteauroux dans l'Indre.
Bonjour Patrice.
Bonjour Philippe. La question, l'autophobie est-elle en train de devenir un racisme ?
Ah ben je crois qu'on n'en est pas loin. Hein. Alors l'autophobie c'est sûr, hein. Il suffit de rouler sur 4 roues et même parfois sur 2 seulement pour avoir tous les ennuis possibles et pour te payer beaucoup plus cher que ne coûte l'achat du véhicule, les réparations, l'assurance et j'en passe. Aujourd'hui, ben on revient... je pense que c'était il y a une vingtaine d'années. Vous savez, quand il y avait une vignette pour les vieux.
Oui. Oui, alors, elle n'était pas pour la voiture, elle était pour les vieux, oui,
alors,
au départ.
On se plaignait, et je crois que ça va recommencer, que le pare-brise soit obscurci par tout ce qu'il fallait coller, parce qu'il y a les attestations d'assurance, il y a un petit récépissé qu'il faut montrer lorsqu'on n'a pas reçu, et c'est la plupart du temps le cas, la nouvelle vignette. Enfin, c'est ridicule, et surtout c'est très coûteux. Hein. Comment vous réagissez, vous ?
Ah, moi, je suis en furie pour tout ça. Surtout qu'en plus, on nous dit c'est pour le bien-être, c'est pour la pollution et tout ça. D'après les récentes analyses qu'ils ont faites, à première vue, depuis qu'ils ont mis en place ce système alterné au niveau des plaques d'immatriculation ou maintenant avec ces fameuses vignettes, eh ben, en fin de compte, le pic de pollution, il a encore augmenté.
Ça, c'est vrai. Et attendez, ça apporte un peu de haut, mais c'est une eau trouble au moulin de Madame Hidalgo.
Ah.
Dans les campagnes les plus reculées, où il n'y a pas de circulation automobile, eh ben, la pollution est également très élevée. Alors,
tout à fait.
Je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Parallèlement, Madame Hidalgo, puisque c'est surtout d'elle qu'il s'agit, essaye de ramasser le maximum d'argent.
Hein ? Ah, ben bien sûr.
La multiplication des contrôles techniques,
oh,
qui d'ailleurs fait les affaires des garagistes. Hein ?
Oui.
À partir du 7 mai prochain, il n'y aura plus de tolérance pour le casque protecteur pour... Ah, vous savez, les scooters qui se baladent rue du cirque, ça sera fini, là. Ensuite, on va créer, alors là, tenez-vous bien, on va créer un nouveau défaut qui portera le nom de critique. On vous arrête. Il y a quelqu'un qui met le nez sous le capot et qui dit « Ah, vous avez un organe vital de votre chère bagnole qui est défectueux. » Vous avez 24 heures pour faire la réparation. Allez donc trouver un garagiste qui le fasse et casser votre tirelire pour payer le garagiste. Mmh. Et si vous ne le faites pas, eh ben le véhicule sera confisqué.
Ouais. Non, mais même aujourd'hui, vous prenez, regardez, moi j'ai un véhicule utilitaire. Donc mon véhicule utilitaire, en tant que véhicule utilitaire, je suis soumis à un contrôle technique tous les ans. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les deux ans comme les autres voitures, alors que c'est les mêmes moteurs, c'est tous les ans. Ben oui, parce que les artisans, ils ont un peu d'argent. Donc, soit on peut en prendre un peu de plus, on en prend. Et on nous fait un contrôle anti-pollution. Donc, normalement, quand on sort du contrôle technique, eh ben, on ne pollue pas, puisqu'ils nous ont donné la vignette comme quoi on était habilité à rouler. Et pourquoi on nous redemande encore une vignette à mettre sur le pare-brise, ou pourquoi on nous dit, ben, monsieur, vous polluez, alors que vous avez un véhicule diesel? Moi, je ne suis pas sur contrôle technique, j'ai payé.
Non, mais attendez, on est passé de la circulation alternée qui obligeait à avoir deux voitures immatriculées différemment circulation différenciée. Il y a une nuance, hein.
Mais moi, ce qui me fait bondir aussi quand je vois, vous rappelez-vous quand c'était la circulation alternée, c'est-à-dire les impairs et les pairs, et ben vous aviez M. Val, le seul jour des pairs, il était venu avec sa voiture impaire.
Petite pause, Patrice et Philippe, et Allô Bouvard revient dans un tout petit instant sur RTL. Jusqu'à midi et demi, c'est Allô Bouvard sur RTL et vous revoici Philippe Bouvard avec Patrice qui est technicien moteur et avec qui justement vous parlez de l'autophobie.
Vous avez quand même quelques dizaines de milliers de braves gens qui ont un véhicule qui est un peu âgé, disons-le.
Ben, moi c'est le cas. Moi,
eh bien, ils pourront rouler seulement le week-end à Paris.
Oui. Ouais,
c'est-à-dire que les jours où on a un véhicule pour aller à la campagne, ils pourront rouler à Paris, mais ils ne pourront pas rouler la semaine.
Non, mais ça devient.
Il y a pire, il y a la mise au point de plus en plus fréquente, et pas seulement à Paris, de ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation.
C'est
une caméra, je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Oui, sur la voiture, 1500 PV à l'heure, c'est pas mal ça.
C'est ça, et alors naturellement, il n'y a pas de présence humaine à côté de la caméra, c'est elle qui juge, et on ne sait pas sur quels critères, parce qu'on n'est pas averti, il n'y a aucun panneau indicateur, que vous devez payer des amendes qui sont généralement multipliées par 3 par rapport au tarif habituel.
Oui, mais il faut que l'argent rentre, vous rendez bon compte. Non, mais ça devient. On est de toute façon, on est fliqué avec les voitures. Dès qu'on monte dans sa bagnole, on est filmé, photographié, on est tout. Et puis les agents qui se mettent des fois sur le bord du trottoir, qui se jettent un peu sur votre voiture pour voir si votre vignette du contrôle technique elle est bien à jour.
Alors la mairie de Paris attend 300 millions d'euros de recettes supplémentaires.
Ben oui, c'est la course au fric, quoi, je crois, surtout. Mais c'est pareil, ils nous parlent aussi aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu des voitures électriques.
Les voitures électriques. Est-ce que vous savez combien on en a immatriculé l'année dernière?
Très peu, parce que en fin de compte, à mon avis, je pense que quand on nous dit il y a 400 km d'autonomie, c'est faux, parce que 400 km d'autonomie, mais faut pas allumer le chauffage, faut pas allumer la radio, faut pas allumer les phares, puis mettre les essuie-glaces, parce que sinon on divise par deux la distance. Donc en fin de compte, et en plus, on n'est jamais propriétaire de la batterie. On est propriétaire du véhicule, mais pas de la batterie.
On peut considérer qu'aujourd'hui, sans rouler dans Paris, il en coûte environ 100 euros pour aller de stationnement en stationnement, s'offrir un petit parking. Mais il y a une consolation, c'est qu'on peut payer ses stationnements avec son téléphone.
Ah oui, maintenant on fait tout avec le téléphone.
Et puis alors, on va avoir des pistes cyclables un peu partout. Et ça, c'est d'autant plus encourageant qu'on m'a personnellement promis par une circulaire qui d'ailleurs ne s'adressait pas qu'à moi, mais aux gens qui travaillent dans mon entreprise, une prime de kilomètres vélo. C'est-à-dire que si je vais travailler, je vous défends de rire, si je vais travailler l'année prochaine à vélo plutôt qu'en voiture, je toucherai une petite prime. Oh, pas grand-chose, ça frisera les 15 centimes par kilomètre. Mais j'aurai de beaux mollets.
Voilà.
Vaut mieux en rire, Patrice, mais ça fait quand même un peu beaucoup, hein.
Oui, je pense que le bouchon, il est en train de sortir un peu de la bouteille, là. C'est impressionnant.
Bon week-end quand même, hein.
Bon week-end à vous, et puis c'est un honneur de vous avoir au téléphone, monsieur Philippe Bouvard.
Au revoir, Patrice.
Au revoir, monsieur Bouvard.
Allez, Philippe, c'est l'heure de se dire au revoir, et surtout de se dire à demain.
Oui, c'est un au revoir qui va nous permettre de nous retrouver dans 23 heures.
Ah, vous les comptez les heures?
Écoutez, c'est un moment où je suis heureux. Alors, ils sont pas tellement nombreux.
À demain pour un bon moment. Tout de suite, sur RTL, vous avez rendez-vous avec Bernard Poirette et l'invité du journal Inattendu. Il est midi et demi.